Je vous salue tous bien cordialement, chers amis auditeurs. Vous êtes sur la bonne longueur d'onde, et le message que vous allez entendre a été préparé spécialement pour vous. De combien de terres un homme a-t-il besoin? Voici le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Restez à l'écoute et prêtez-nous toute votre attention. Léon Tolstoï, le célèbre écrivain russe, a écrit une nouvelle dans laquelle Pachom, un fermier cupide, se voit offrir tout le terrain dont il pourrait faire le tour en une journée. Il parie en échange tout ce qu'il possède. Les paysans comptent sur sa cupidité et sur son incapacité à planifier sa journée. Ils s'attendent à ce qu'il tente de gagner une étendue trop vaste et perde tout ce qu'il a misé. Malgré la chaleur et sans connaître la région, Pachom est de retour au coucher du soleil après avoir fait le tour d'un terrain considérable. Mais totalement épuisé par l'effort, il s'écroule et meurt. Son serviteur lui creuse une tombe de 6 pieds de long et de 6 pieds de profondeur, la quantité de terre dont un homme a besoin. Cette nouvelle tragique de Léon Tolstoï me rappelle une autre histoire qui lui ressemble quelque peu, que notre Seigneur Jésus-Christ en personne a racontée. La voici. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus a raconté cette parabole suite à une demande que quelqu'un du milieu de la foule avait formulée, de dire à son frère de partager avec lui leur héritage. Le Seigneur a introduit son histoire avec une mise en garde dont chacun de nous devrait tenir compte, que voici. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Jésus met ici les pendules à l'heure. Il nous donne une leçon impressionnante sur les véritables valeurs de la vie, ce qui compte réellement. Ce ne sont pas nos possessions et nos biens matériels, qui sont vraiment importants, mais le fait d'être riche en Dieu. Revenons un instant à la nouvelle de Tolstoï. Le fermier Pachom menait une existence convenable, mais en se comparant avec d'autres fermiers plus riches que lui, il fut saisi par un esprit de cupidité. En apprenant qu'il pouvait acquérir davantage de bonnes terres à titre bon marché, il saute sur l'occasion. Ce qui a réellement déclenché son action, c'était une forme de rivalité, d'envie et de cupidité. Il voulait être plus riche que les autres, ou du moins aussi riche qu'eux. Ce désir charnel l'a amené à se surestimer et l'a finalement conduit à une mort tragique et prématurée. Il a dû apprendre qu'en fin de compte, toute la terre dont un homme a réellement besoin est l'équivalent des dimensions d'une tombe. L'esprit de Pachom est omniprésent dans notre société occidentale, et elle est aussi bien vivante dans notre petit pays. Bien des braves gens veulent rivaliser avec leurs voisins et leurs proches. Ils sont saisis par le matérialisme et par le désir d'accumuler toujours plus de biens. Entre-temps, on perd de vue les priorités qui comptent vraiment. Et au milieu de cette course frénétique retentit l'avertissement de notre Seigneur, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Dans sa parabole du riche insensé, le Seigneur Jésus insiste d'abord sur le piège du succès, de la réussite. Les termes « succès » et « réussite » sont des mots absolument bibliques. Je suis persuadé que Dieu veut que ses enfants réussissent, qu'ils réussissent leurs études, qu'ils aient du succès dans leur vie professionnelle et qu'ils réussissent leur vie conjugale. Ainsi l'Éternel a déclaré à son serviteur Josué, lorsque celui-ci a pris la place de Moïse, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Rappelons-nous toutefois que toute bénédiction peut devenir un piège. Quand la réussite et le succès deviennent un but en soi, nous nous trouvons sur un terrain dangereux. L'homme dans notre histoire de Jésus avait réussi ses récoltes, à un tel point qu'il lui fallait abattre ses anciens greniers et en construire de plus grands, pour y amasser toute sa récolte et tous ses biens. Jusqu'à présent, il n'y a rien à reprocher à cet homme. On pourrait même le louer pour son esprit d'entreprise et pour le fait qu'il était visionnaire et qu'il prenait des précautions par rapport à son avenir. C'est la suite qui nous révèle qu'il y avait une sérieuse faille dans sa façon de penser et de concevoir la vie et l'avenir. Écoutez bien son discours. « Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Cela vaut la peine d'analyser ses propos. Premièrement, en déclarant « tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années », il a compté sur un avenir qui ne lui appartenait pas. La crise économique qui a frappé le monde ces dernières années montre combien l'économie mondiale est fragile et comment même des institutions bancaires de renommée peuvent subitement s'écrouler et ne plus honorer les paiements. D'innombrables personnes ont perdu subitement toutes leurs économies sur lesquelles elles avaient compté pour assurer leur avenir. J'ai un ami qui a investi une somme considérable dans une banque américaine, mais celle-ci a fait faillite. C'est ainsi que du jour au lendemain, il a perdu tout son épargne. Mais le fait de compter sur un avenir qui ne nous appartient pas couvre encore un autre aspect de notre vie. Nous espérons tous devenir vieux. Nous passons nos meilleures années dans l'insouciance et dans les plaisirs, voulant profiter au maximum de cette existence terrestre. Puis, une fois que l'on sera vieux, on pourra toujours se soucier un peu de sa vie spirituelle, de sa relation avec Dieu, et on pourra penser à la mort et à s'y préparer. Le problème, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme nous l'avons programmé ou espéré. Mon beau-père avait l'habitude de dire « les vieillards doivent mourir, mais les jeunes peuvent mourir. Nous n'avons aucune garantie d'atteindre un âge avancé. C'est pourquoi la Bible nous exhorte « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » En tant que pasteur, j'ai eu l'occasion de célébrer bon nombre d'obsèques. J'ai présidé à l'enterrement d'une vieille dame décédée dans sa 100e année, mais j'ai également dû faire les funérailles d'un bébé d'un mois. Je me suis tenu devant la tombe de jeunes personnes dont les rêves d'une longue vie ont été subitement brisés. Monsieur, madame, si vous êtes toujours vivant, c'est uniquement par la grâce de Dieu, et il vous exhorte à vous mettre en règle avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons évoquer une deuxième faute qu'a commise l'homme dans l'histoire de Jésus-Christ. Il ne s'intéressait qu'à la satisfaction et des désirs et des besoins de son corps. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Notre ami a tenu le parfait discours d'un hédoniste. L'hédonisme est par définition une doctrine philosophique grecque selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement du déplaisir constituent l'objectif de l'existence humaine. Cette mentalité hédoniste est très bien représentée dans notre pays. On ne pense qu'à son bien-être physique et au plaisir charnel, comme si nous vivions éternellement sur cette terre et comme s'il n'y avait pas de rendez-vous avec Dieu, à l'occasion duquel nous serons jugés d'après le bien ou le mal que nous aurons fait, étant dans notre corps. Le sage Salomon a recommandé, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. » Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». La troisième erreur de l'homme dans notre histoire, c'est qu'il n'était pas riche pour Dieu. C'est la conclusion que le Seigneur Jésus a tirée. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le Fils de Dieu souligne ici l'immense différence qui existe entre nos biens matériels, terrestres, passagers, et les véritables trésors, les vraies richesses qui sont d'ordre spirituel. À quoi bon d'amasser les richesses éphémères et passagères au détriment des trésors impérissables, éternels, Monsieur, madame, puisse Dieu ouvrir vos yeux pour ce qui compte réellement. À propos, que faut-il comprendre par « être riche pour Dieu » ? Cela nécessite impérativement le développement d'une relation personnelle avec le Seigneur. Être riche pour Dieu implique une vie basée sur les Saintes Écritures, une marche dans l'obéissance à ses commandements et un comportement qui l'honore et le glorifie. Amis auditeurs, possédez-vous ces qualités? Sinon, commencez dès maintenant à devenir riche pour Dieu. Nous devons insister sur une dernière faute monumentale de la part du riche insensé. Il n'a pas tenu compte de l'éventualité d'une mort prématurée et subite. Le récit biblique relate « Mais Dieu dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce » Quelqu'un a dit « Bien des gens qui veulent se convertir à 11 heures meurent à 11h-5 ». C'est bien dit. Et c'est justement là la tragédie. On ne tient pas compte de l'éventualité d'une mort prématurée et subite. Avez-vous noté comment Dieu a appelé l'homme dans la parabole que Jésus a racontée ? Insensé, fou. C'est ainsi que Dieu considère tout être humain qui vit comme s'il n'y avait ni mort, ni jugement, ni la possibilité d'aller dans un lieu de châtiment éternel. Ma prière, c'est que vous ne fassiez pas partie de ces gens-là. Ne ressemblez pas à Pachom dans la nouvelle de Tolstoï. Décidez-vous maintenant de venir à Jésus-Christ et à développer une relation personnelle et vivante avec lui. Puisse Dieu vous bénir abondamment. J'espère que vous serez de nouveau des nôtres la semaine prochaine sur ces mêmes ondes. Que le Seigneur veille sur vous et qu'il fasse luire sa face sur vous. C'est Jean-Pierre Boly qui vous dit bye bye.